Nous avons le plaisir de vous apporter ce message qui impactera votre vie. Pour toute information et renseignement, allez sur www.benimoi.com.
Voilà, on va s'asseoir dans la présence de Dieu et prendre nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a expérimenté des difficultés pour arriver ici aujourd'hui? Des difficultés anormales. Hein? vraiment, l'ennemi, il s'avoue jamais vaincu, lui. Alors que, certains d'entre nous s'avouent vaincu, lui s'avoue jamais vaincu. Il y a un passage dans le livre de Luc. Avant que le Seigneur le dise, l'Esprit du Seigneur est sur moi. On va prendre Luc chapitre 4. On va lire d'abord le verset 1. Luc chapitre 4, le verset 1. Luc chapitre 4, à partir du verset 1. Au verset 1, la Bible dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Donc c'est juste après le moment où il est baptisé d'eau. Donc Jésus est baptisé d'eau et la Bible dit que le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe. Ensuite, le verset 1 de Luc 4 nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Donc il revient du Jourdain rempli du Saint-Esprit. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Amen. Donc, il est rempli du Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui le remplit, qui le conduit dans le désert. Et arrivé dans le désert, qu'est-ce qui se passe? Il est conduit par le Saint-Esprit dans le désert où il est tenté par le diable. Et nous disons, vous voyez, si vous êtes tenté par le diable alors que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez plus de chances d'avoir la victoire que si vous êtes tenté par le diable et que vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Donc Dieu ne s'oppose pas au fait qu'on soit tenté par le diable, mais Dieu veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit lorsqu'on est tenté par le diable. Vous voyez, si Jésus qui est le Fils de Dieu a pu affronter le diable étant rempli du Saint-Esprit, donc nous ne pouvons avoir nous la victoire que si nous sommes remplis du Saint-Esprit en face du diable. Donc être rempli du Saint-Esprit n'est pas une option pour nous, c'est une obligation. C'est une nécessité pour nous d'être remplis du Saint-Esprit, parce que c'est ce qui nous donne véritablement de cette dimension-là surnaturelle. C'est le Saint-Esprit en nous. La Bible dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais si c'est celui-là dont on parle, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas là, ben vous n'avez rien en vous. Donc en fait, vous êtes vide. Et si vous êtes vide, il ne va pas mettre du temps à savoir que vous êtes vide. La preuve, la Bible dit que le diable l'a tenté. La Bible dit qu'il ne mangea rien durant ces jours-là et après que ces jours furent écoulés, il eut faim. Donc Jésus lui-même a jeûné. Donc le Fils de Dieu n'a pas jeûné pour être rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit et il a jeûné. Amen. Donc, quand on est rempli du Saint-Esprit, ça ne nous empêche pas de jeûner. Au contraire, le Saint-Esprit va nous pousser aussi des fois à jeûner. Donc le fait de jeûner est aussi important, c'est un exercice spirituel important pour nous rendre encore plus forts spirituellement et pour permettre au Saint-Esprit de faire encore plus de choses en nous et à travers nous. Amen. Maintenant, l'ennemi va le tenter, et puis au verset 13, la Bible dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, amen, verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Donc, le diable a essuyé un échec parce qu'il a tenté le Seigneur de toutes ses manières et il n'a pas pu y arriver, il n'a pas pu le vaincre. Mais il n'a pas renoncé pour autant. La Bible dit qu'il s'est éloigné de lui, amen, jusqu'à un moment favorable. Il s'est éloigné de lui jusqu'à un moment favorable. Ça veut dire quoi? Qu'il s'est éloigné et maintenant il attend un meilleur moment pour lui pour pouvoir l'attaquer encore. Donc, le diable ne s'avoue jamais vaincu. Tu peux avoir la victoire sur lui en 98, en 99, en 2000, mais lui, il est là, il attend. Il attend quoi? Un moment favorable. Mais c'est quoi un moment favorable pour le diable? C'est le moment où tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est le moment où tu n'es plus rempli du Saint-Esprit. C'est ça pour lui le moment favorable. Quand tu commences à marcher dans la chair, il dit, ah voilà, c'est bon maintenant. Le moment est arrivé. Amen. Donc c'est la raison pour laquelle, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours, d'abord, un, on doit savoir qu'est-ce qui va nous permettre d'être spirituellement en bonne santé. Amen. Parce qu'il attend un moment favorable, il attend un moment où tu n'es pas en forme. Il attend un moment où tu n'es pas en bonne santé. Il attend un moment où tu es faible. Tu sais, il y a certains moments de faiblesse là. Même un enfant de 12 ans peut te frapper. Tu es là, tu es fiévreux, tu es fatigué. N'importe qui peut te vaincre. Tu peux être le plus grand combattant du monde. Pour ça, une fois, ils ont demandé... Il y a un monsieur qui organise des paris sportifs. Il organise des combats de chiens. Et puis un jour, les gens lui ont demandé, mais toi, comment tu fais pour savoir qui va gagner toujours? Il dit, mais c'est moi qui les nourris. C'est moi qui leur donne à manger. Donc comme c'est moi qui leur donne à manger, je sais qui va gagner, qui ne va pas gagner. Parce que celui que je veux, c'est celui que je veux qui gagne, c'est lui qui va gagner. Parce que lui, je vais lui donner de la bonne nourriture, je vais lui donner des choses solides. Et l'autre, je vais l'affamer. Donc s'il y en a un qui est rassasié, l'autre a faim. Celui qui est rassasié va battre celui qui a faim. Donc la nourriture, et le Seigneur a dit, il dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. L'exercice spirituel, ce sont des exercices qui sont importants. Le spirituel, c'est comme dans tout domaine, si vous pratiquez des exercices, vous devenez plus fort. Dans le domaine physique, si vous faites de la musculation, ben vous allez prendre du muscle. Et vous allez devenir plus fort. Il y a des gens, quand vous les voyez, vous demandez, mais l'homme peut être comme ça? C'est terrible. Son bras, on dirait la cuisse de quelqu'un. Mais c'est extraordinaire. Quand vous regardez les Jeux Olympiques, par exemple, vous vous rendez compte des performances des êtres humains. Des gens sont capables de taper des saltos, de voltiger à des mètres, d'autres tapent le grand écart, font des trucs extraordinaires. Mais l'homme est capable de faire des choses extraordinaires s'il s'exerce. Donc, si on veut avoir une grande dimension sur le plan spirituel, il faut également s'exercer sur le plan spirituel. Quelqu'un ne peut pas se lever un matin et puis, parce qu'il est content, il dit, je vais soulever 100 kilos. Tu n'as jamais fait ça. Mais un homme peut soulever même jusqu'à 250, 300 kilos. Ça, on le voit aux Jeux Olympiques. Mais il ne l'a pas fait du jour au lendemain. Il le fait tous les jours. Il soulève, il met un peu plus, il soulève un peu plus, mais il s'entraîne tous les jours. Jusqu'au jour de la compétition, il soulève 250, 300, certains soulèvent trois fois leur poids. C'est extraordinaire. Mais si tu ne t'es pas entraîné, tu ne t'exerces pas, tu ne prends pas l'habitude de t'exercer, et parce que tu es content un matin, tu dis tu vas soulever 100 kilos dessus de ta tête, mais tu vas te casser tout sur le corps. Et la barre risque de tomber sur toi. Pourtant, quelqu'un qui est plus petit que toi, qui est moins lourd que toi, il peut soulever, mais toi, tu ne peux pas. Donc, c'est la même chose. Le problème des gens, c'est qu'ils attendent lorsqu'ils ont des problèmes pour pouvoir vouloir générer de la puissance spirituelle. Ils attendent qu'ils sont fatigués maintenant pour pouvoir vouloir générer de la puissance spirituelle. Ils attendent qu'ils sont acculés, quand ils ont plus leur tête pour pouvoir vouloir générer de la puissance spirituelle. Mais si tu ne prends pas l'habitude d'être spirituellement fort dans les jours normaux, c'est pas dans les jours de crise que tu vas l'être. Quoique Dieu peut nous apporter son secours, quand bien même on se sent faible. Donc la Bible dit au verset 13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Donc il faut savoir que le diable, il attend des moments favorables. Il attend des moments favorables. Mais quand le diable décide d'attaquer, nous, nous avons la possibilité de pouvoir riposter. Amen. 2 Corinthiens 4, que je vous ai, j'avais demandé de prendre. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4, nous dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Jésus-Christ, de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc l'évangile est voilé pour ceux qui périssent. Il a mis un voile. Et ceux qui périssent ne peuvent pas voir certaines choses. Ils ne peuvent pas voir briller certaines choses. Amen. Ils ne peuvent pas voir la force et la puissance de certaines choses. Ils ne peuvent pas comprendre la force de certaines choses. Vous voyez, quand quelqu'un est en train de périr, des fois vous allez lui donner des solutions. Vous allez lui donner des manières de renverser la tendance, de renverser la chose. Et très souvent, lorsque vous allez lui proposer des solutions spirituelles, beaucoup d'entre eux vont vous dire, mais pour faire quoi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Parce qu'il ne peut pas voir la puissance qu'il peut y avoir derrière certaines choses. Amen. Il ne peut pas voir la puissance qu'il y a. Il est parce que son intelligence est voilée. Il va se demander, mais comment un tel acte peut provoquer une réaction ou peut provoquer un changement ou peut provoquer quelque chose. Amen. Parce que ses yeux spirituels sont voilés. Or, la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons, amen, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas charnelles, elles ne sont pas physiques. Amen. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas physiquement qu'elles ne sont pas puissantes. Amen. Mais le diable a voilé l'intelligence des gens pour qu'ils ne puissent pas comprendre véritablement la puissance de ces armes spirituelles. Donc, beaucoup ont l'impression que Dieu nous a livrés et nous a abandonnés entre les mains de l'ennemi. Que Dieu nous a abandonnés entre les mains de l'ennemi sans armes. Vous me voyez pas, mais je parle. Alléluia. Sans armes et sans équipement. Amen. Alors qu'il nous a tout donné. Il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour pouvoir avoir la victoire. Amen. Il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour pouvoir avoir la victoire. Prenons maintenant nos Bibles dans Actes 9, parce que nous avons parlé un peu de notre ami Paul. Rapidement. Je dis ces choses pour que introduise toujours le moment de prière, parce que on a besoin de se rappeler certaines choses. Et d'autres ont besoin d'apprendre certaines choses. Dans Acte 9, où Dieu a commencé à nous parler sur le fait qu'il faut faire tomber les écailles des yeux. Je lis rapidement, je survole à partir du verset 1. Au verset 1, la Bible dit « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. » Donc là, on parle de quelqu'un qui tue les chrétiens. La Bible dit « Respirant encore la menace ». Lui, c'était sa nourriture, c'était son oxygène, c'était son air. Il respirait la menace. Il était farouchement opposé aux chrétiens, et aux enfants de Dieu, et aux disciples du Seigneur. Amen. La clé est juste là. Et aux disciples du Seigneur. Amen. Et il était encore dans son délire. Il était encore dans sa volonté d'empêcher quelque chose avec des armes physiques. Vous avez toujours des gens qui vont se laisser utiliser par le diable pour pouvoir essayer de détruire des choses, comme on a eu dernièrement, on est en train de faire, de rappeler un peu les œuvres de Hitler, comment Hitler a physiquement voulu se débarrasser du peuple juif. C'est incroyable. Vous avez des, et c'est pas le premier. Tout à l'heure, je vais vous montrer un autre. Avant Hitler, il y a eu des gens qui ont voulu décimer les Juifs, à plusieurs reprises. Et jusqu'à présent, nous sommes l'Israël spirituel. Vous voyez? Et ces gens-là, ce sont des figures du diable, des antichrists. Il n'y a pas un seul antichrist, il y en a eu plusieurs. Et il y en aura toujours, des gens qui veulent s'opposer à Christ dans ta vie. Amen. Qui veulent s'opposer à Christ dans ta vie, qui veulent prendre la place de Christ dans ta vie. Antichrist. Donc lui, il vient pour prendre la place de Christ. Vous voyez? Et il y en a eu beaucoup. Mais la Bible dit que ce Saul-là, qui était un persécuteur des chrétiens, persécuteur des enfants de Dieu, il a eu une rencontre avec le Seigneur. Bon, je vais écouter ça parce que ce n'est pas le but aujourd'hui. Au verset 9, la Bible dit... qui se releva, au verset 8, la Bible dit Saul se releva de terre parce qu'il était terrassé. Quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Amen. Parce que là, maintenant, c'était son état spirituel qui s'était maintenant manifesté dans le physique. Ses yeux sont ouverts, mais il ne voit rien. C'est pour ça que ses cousins, les Juifs, jusqu'à présent, ils attendent toujours le Messie. Ils n'ont pas encore vu que Jésus-Christ est le Messie. C'est grave. Pourtant, quand vous prenez la Bible, vous prenez Ésaïe, par exemple, qu'ils lisent tous les jours, parce qu'eux, ils aiment bien ces livres prophétiques-là. Les Ésaïe connaissent bien Ésaïe. Quand la Bible dit que que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris, persécutés à notre place, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Mais la Bible a tellement été claire. Même David, quand il lit les psaumes, David parle de la crucifixion de Jésus. À qui a-t-il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de la terre ton marchepied? Il a parlé de Jésus comme étant du sauveur. Vous prenez l'Ancien Testament, on parle de Jésus dans tous les livres de l'Ancien Testament. Incroyable. Mais eux, ils ne peuvent pas voir ça. Pourtant, ils lisent ça tous les jours. Pour vous dire que la puissance de l'aveuglement, c'est terrible. C'est terrible. Et Paul, il était tellement aveuglé qu'il a osé se lever contre un Dieu qu'il prétendait servir. Il aimait Dieu, il voulait servir Dieu. Mais il le servait mal, parce qu'il servait Dieu en voulant tuer des gens. Donc il fallait que les écailles de ses yeux tombent pour qu'il puisse comprendre la vraie nature du combat. Comment est-ce qu'on gagne? Comment est-ce qu'on arrive à renverser les choses? Comment est-ce qu'on arrive à marquer sa génération? Comment est-ce qu'on arrive à marquer la vie des gens? Amen. Et la Bible dit que, au verset 8, donc, il se releva de terre et il ne voyait rien. Et on le prit par la main, on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir. La Bible dit au verset 9, il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Ça veut dire quoi? Pendant 3 jours, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Il était en jeûne, il a jeûné. Amen. Maintenant, le verset 10 nous dit, oh, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. J'aime bien quand on dit un disciple. On n'a pas dit un chrétien, on dit un disciple. Aujourd'hui, si on t'envoie quelqu'un qui ne voit pas, mais il n'a qu'à aller à l'hôpital, non? Oh, il y a des disciples. Amen. Ils savent que leur Dieu peut guérir. Amen. Hein? Ils sont capables même d'entendre Dieu leur parler et de voir les choses que Dieu veut faire. La Bible dit qu'il y avait donc un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse, car il prie. Car il fait quoi? Il prie. Donc Dieu va référencer quelqu'un et il va référencer cette personne-là sur la base d'un exercice que tout le monde ne fait pas. Car il prie. C'est ce qui le distingue. On n'a pas dit car il va à l'église maintenant. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église qui ne prient pas. Ils ne prient pas. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais ils ne prient pas. Donc pour Dieu, la référence, c'est que la personne a prié. Amen. Car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Donc la chose s'est passée et la Bible dit effectivement que Ananias lui a imposé les mains et il a recouvré la vue. Amen. Mais moi, ce qui me touche aujourd'hui et sur lequel le Seigneur veut nous interpeller, c'est le fait qu'il ne mangea ni ne but pendant 3 jours avant que cette délivrance-là puisse opérer dans sa vie. Amen. Pour que cette délivrance-là puisse opérer dans sa vie, la Bible dit qu'il ne mangea ni ne but pendant 3 jours. 3 jours sans manger et sans boire. Et ça m'interpelle. Pourquoi? Parce que quand vous voyez dans la Bible quelque chose revenir souvent, c'est que Dieu veut vous montrer quelque chose là. Et il veut vous montrer quelque chose qui peut avoir une dimension spirituelle puissante. Il veut vous montrer quelque chose qui peut même renverser certaines choses dans votre vie. Amen. Il a dit une fois dans Matthieu chapitre 17, verset 21, il a dit, cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Amen. Matthieu chapitre 17, verset 21, ça veut dire qu'il y a une sorte de démon, il y a une catégorie de démons. La seule manière de les chasser, c'est le jeûne et la prière. C'est la combinaison du jeûne et la prière qui peut amener cette sorte de démon à sortir. Donc moi je me pose la question de savoir, mais si Paul n'avait pas jeûné 3 jours, est-ce que les écailles de ses yeux allaient tomber? C'était tellement fort, tellement puissant que quand le démon est parti, c'était comme on a vu des manifestations physiques. Moi, j'ai déjà vu des délivrances comme ça. La personne, tu pries pour la délivrance de la personne, et puis elle va vomir un truc rouge qui sort, ou bien il y a quelque chose de physique qui sort. C'est extraordinaire. Mais ce genre de délivrance-là ne peut s'obtenir que par le jeûne et la prière. La combinaison du jeûne et de la prière. Et je me dis, mais 3 jours, 3 nuits, pour pouvoir renverser la vie de quelqu'un. Parce que tant que Paul n'était pas délivré de cet esprit-là qu'il avait aveuglé, il n'allait jamais pouvoir servir Dieu à la dimension à laquelle il a servi. Plus tard, Paul va jeûner encore. Mais c'est ce jeûne-là qui lui a permis de voir, de comprendre l'évangile. Parce qu'il a été délivré d'un esprit qui l'empêchait de voir la gloire de l'évangile. Vous voyez? Il était délivré de cet esprit-là. Après un jeûne de 3 jours et de 3 nuits. Et quand Jésus dit que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Vous savez, des fois, vous avez affaire à des gens qui, dans leur marche et dans leur vie spirituelle, un moment tu te demandes, mais est-ce que la personne est vraiment sérieuse avec l'évangile? Cette question-là, Jésus l'a posée une fois à quelqu'un. Il allait à la piscine de Bethsaïda, de Bethesda, et il a vu là-bas un paralytique. Depuis 38 ans, le gars était malade, était paralytique, 38 ans. Et il arrive à la piscine, ça fait 38 ans, le frère est là. 38 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, 38 ans. Il y a des gens, vous le voyez, ils n'ont même pas 38 ans. Ils ont 25 ans, 29 ans. Lui, ça fait 38 ans. Ça veut dire que si le jour où il est parti là-bas, si il avait connu un enfant à l'âge de 2 ans, au moment où Jésus l'a rencontré là-bas, le petit de 2 ans qu'il a laissé là, au moment où il partait à la piscine, il avait 40 ans maintenant. C'était un papa de 40 ans, il était déjà. Il y en a même à 40 ans, ils peuvent être grand-père. Hein. C'est grave, c'est une génération, c'est extraordinaire. Donc Jésus arrive et puis Jésus le trouve là. Il dit, mais papy, tu fais quoi là? Parce que même si c'était un jeune homme, au moment où il arrivait là-bas, maintenant il est obligé, il est un papy. Donc toi, tu vas aller faire toute ta vie dans cette affaire-là. Il dit, mais tu fais quoi là? Il dit non. Il commence à lui expliquer un peu les choses. Il lui dit, tu vois, la nuit, bon, chaque jour, il y a un ange qui vient de temps en temps, il agite un peu la surface de la piscine. Maintenant, quand c'est un peu agité, bon, il y a des gens qui viennent se jeter. Le premier qui se jette là, il reçoit sa guérison. Jésus lui a demandé, mais est-ce que tu es vraiment sérieux par rapport à cette guérison-là? Parce que même si tu es paralytique, il dit, il n'y a personne pour me jeter dedans. Mais tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu veux que quelqu'un jeûne à ta place? Hein? Tu veux que quelqu'un jeûne à ta place? Tu veux que quelqu'un prie à ta place? C'est que tu n'es pas très sérieux par rapport à ça. Mais Jésus se demande, mais attends, toi ça fait 38 ans que tu es là. Même si tu mets un an pour avancer de 2 cm chaque jour. Alléluia! Même si tu mets chaque jour, tu avances de 2 cm seulement. Mais tu vas finir par arriver au bord de la piscine. Hein? De telle sorte que dès que l'ange bouge, là, en même temps, tu tombes dedans et puis tu es le premier à être guéri. Tu ne peux pas aller mettre la faute sur les autres. Il y a un effort là que tu dois faire, que tu refuses de faire, que tu ne veux pas faire. Et cette chose-là va te bloquer comme ça dans ta vie. Pendant des années, ça peut même durer jusqu'à 38 ans. On va venir te trouver encore au même stade parce que cet effort-là, tu ne veux pas le faire. C'est une forme de paresse. Jésus le regarde, tu es sérieux par cette guérison-là, mon frère? Ah! Pourtant, un paralytique, même 38 ans, il fait ses besoins quand même. Même s'il est paralytique, il mange, non? Il doit manger parce qu'il est laïf. Donc, il trouve des gens pour le faire manger. Il trouve des gens pour le laver, il trouve des gens pour laver ses habits, pour l'habiller, il trouve des gens pour faire toutes les choses de la vie courante, mais il trouve personne pour le délivrer. Pourquoi? Parce que lui-même, il veut pas faire l'effort. Lui-même, il veut pas faire l'effort. Donc à un moment, faut te demander est-ce que je suis vraiment sérieux par rapport à ma vie spirituelle. Est-ce que je suis vraiment sérieux par rapport à ce miracle? Est-ce que je suis vraiment sérieux par rapport à cette chose? Vous voyez, quand les gens maintenant deviennent sérieux par rapport à certaines choses, il y a des actions qui vont commencer à poser. Et très souvent, tu ne vas vraiment commencer à bouger la chose que quand la résolution de cette chose-là va être plus importante pour toi que la nourriture. Tant que la nourriture est là, c'est-à-dire que toi, tu ne peux pas louper un repas. Bon, tu commences à prier pour la chose, donc faut que tu manges. Tant que l'urgence de la chose, la résolution de la chose ne devient pas plus importante pour toi que la nourriture, c'est que tu n'es pas encore vraiment très sérieux par rapport à ça. On va prendre nos Bibles dans le livre d'Esther, parce que dans le livre d'Esther, on voit une femme aussi qui va jeûner, de la même manière, sauf que Paul, lui, l'a jeûné de manière forcée. Mais Esther aussi, c'était forcé pour elle. C'était chaud, hein, c'était forcé. Le jeûne d'Esther, c'est un jeûne forcé. Avant, je croyais que c'était, comment on appelle ça, pour elle, que c'était... Son zèle qui a fait ça. Mais ce n'est pas son zèle. Parce que quand tu lis là, à un moment, Esther, chapitre 4, au verset 10, la Bible dit, Esther chargea Hatak d'aller dire à Mardoché, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là, seul, a la vie sauve, et à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Mardoché a fait dire à un monsieur qui s'appelle Hatak, va dire à Esther qu'il y a un monsieur qui s'appelle Aman, qui est comme Hitler. Hitler n'était pas encore venu. Alléluia. Qui est comme tous ces gens-là qui veulent détruire tes enfants. Qui a fomenté un plan pour pouvoir nous détruire, pour pouvoir nous tuer. Donc, va dire à Esther d'aller prévenir le roi. Maintenant, Esther va donner cette réponse-là. Va dire à Mardoché que on ne voit pas le roi comme ça. Que si tu n'as pas été invité par le roi, que tu vas te présenter devant lui, s'il ne te tend pas son sceptre, tu es condamné à mort. Donc, Mardoché va lui répondre. Verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre Esther. Dis-toi, va dire Esther. Va dire Esther. Regarde ce qu'il dit. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Il ne faut pas penser que dans cette affaire-là, c'est les autres. Et puis toi, tu vas t'échapper. Comme certains aujourd'hui, certains chrétiens qui pensent que quand la persécution va se lever sur les chrétiens, eux, ils vont échapper. Personne ne va échapper. Tu vois? Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas te réjouir du malheur d'un autre enfant de Dieu. Parce que si le diable arrive à faire ça à un enfant de Dieu comme toi, c'est que toi, pour toi aussi, arrive. Donc, quand on convoque, par exemple, des jeunes pour pouvoir prier, on dit on va prier pour l'église. Il ne faut pas dire que non, comme nous, on n'a pas de problème, on n'a pas besoin de se joindre à ça. Parce qu'un jour, ce même qui s'est levé là, à moins que tu sois dans son camp, peut-être tu ne nous as pas dit. Mais sinon, un jour, celui qui s'est levé contre les autres, il va se lever également contre toi. Il va se lever contre toi. Donc, Mardoché fait dire, ne t'imagine pas, faut même pas rêver. Faut pas t'imaginer que dans cette affaire-là, tu vas échapper. Seul dans tous les Juifs. Regarde ce qu'il dit. Il dit, parce que tu es dans la maison du roi. Il ne faut pas t'imaginer que tu vas échapper parce que tu es dans la maison du roi. Regardez ce qu'il dit au verset 14. Verset 14, très important. Il dit, car si tu te tais maintenant, si maintenant tu ne parles pas, tu te tais, tu ne fais rien, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu ne dis rien, tu ne fais rien. Regarde ce qu'il dit. Il dit, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Si tu ne veux pas te laisser utiliser, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Alléluia. Si tu ne veux pas te laisser utiliser là, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Amen. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Donc si tu ne réagis pas, nous on sera quand même délivrés. Mais toi et la maison de ton père là, vous tous vous allez périr. Parce que tu as refusé de te laisser utiliser. Quand le salut touche un enfant de Dieu, c'est pour sauver la maison de son père. La maison de ton père est sauvée à travers toi au nom de Jésus. Alléluia. Toute la famille est sauvée à travers toi au nom de Jésus. Mais tu dois pouvoir poser des actes forts, des actes puissants pour amener la délivrance. Dis délivrance. Vous savez, quand Joseph a parlé à ses frères, un moment, il s'est réjoui parce qu'il a dit, vous voyez, aujourd'hui, la délivrance est arrivée par moi dans la famille. C'est la délivrance. Il a même dit une grande délivrance parce que c'est la délivrance. Peut-être que toi, tu es sauvé, mais est-ce que ta famille est sauvée? Tu dois amener la délivrance. La vie réellement de quelqu'un, la vie spirituelle de quelqu'un commence après sa délivrance. La délivrance est un moment important. C'est un moment puissant. Parce que quelqu'un ne peut pas servir Dieu étant encore lié par des esprits, étant encore possédé. Or, il y a une sorte de démon là, qui ne sort que par le jeûne et la prière. Alors, ça veut dire que tant que tu n'es pas rentré dans un moment de jeûne et prière par rapport à une délivrance qui doit s'opérer dans ta vie, il y a une catégorie de démons là qui est encore là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce soir plutôt. On est le soir, on est le matin. On est... Dans le monde spirituel, il n'y a pas de... Alléluia. Il y a des gens, des fois, on doit leur parler cash, clairement comme ça. Mardoché dit, va dire à Esther. ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Tu as menti. Car si tu te tais, maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther est rentrée en elle-même et puis elle a dit bon. Elle envoya dire, allez dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Alléluia. Voilà des gens qui sont sérieux par rapport à une délivrance. Il a dit, tu penses que tu vas échapper. Tu ne peux pas échapper. Mais il y a un prix à payer. Elle a dit, allez dire à Mardoché que je suis prête à payer ce prix-là. Vous aussi soutenez-moi. Je n'ai prié pendant 3 jours et 3 nuits. Moi aussi je vais jeûner et je vais aller voir le roi. Si je dois périr, je périrai. Amen. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Alléluia. Donc ce jeûne de Esther là, ce n'était pas un jeûne facultatif. Elle n'avait pas le choix. Parce qu'elle allait périr. Le problème c'est qu'il y a des gens qui sont en train de périr, mais ça, ils attendent toujours que quelqu'un jeûne à leur place. Elle aurait pu dire, bon, allez, jeûnez pour moi. Je vais aller voir le roi. Mais elle a dit, jeûnez pour moi. Moi aussi, je vais jeûner. Moi aussi, je vais jeûner. Vous imaginez? Il y a des personnes, dans leur vie, on doit opérer des délivrances. Tu vas lui dire, écoute, jeûne 3 jours. Mais si tu lui demandes de jeûner 3 jours, toi aussi, tu jeûnes en même temps que lui. Pourtant, c'est lui son problème. Mais toi, tu vas jeûner 3 jours pour régler son problème. Et lui, il ne jeûne pas. Tu dis non, je voulais jeûner, mais comme j'avais trop de travail là, c'était un peu compliqué. Mais attends, moi là, j'ai pas de travail aussi. Je n'aime pas la nourriture comme toi. Mais devant certaines situations, quand tu veux avoir quoi? Le secours. Il dit le secours et la délivrance. Le secours et la délivrance. On va jeûner 3 jours. Amen. Et 3 nuits. Donc, vous avez l'exemple d'Esther. Vous avez Paul. 3 jours, 3 nuits, sans manger ni boire. Une délivrance opère dans sa vie. Esther, si vous lisez la suite de l'histoire, vous allez voir que le Haman, là, qui était chaud pour pouvoir tuer les Juifs, finalement, c'est lui, il est tombé dans son propre piège. C'était une humiliation pour lui. La chose a été renversée. Lui-même, il ne sait pas comment. Il était le meilleur ami du roi. Il était au palais. Il avait plus d'influence qu'Esther. Le plan qu'il avait mis en place, personne ne pouvait déjouer ce plan-là. Ce n'est pas possible. C'était un plan savamment orchestré pour pouvoir détruire les Juifs. Et ça allait à son terme. Ça courait vers son terme, vers son cours logique. Esther, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Rien. Mais quand elle a pris sur elle de jeûner pendant 3 jours et 3 nuits et prier par rapport à cette situation-là, quelque chose s'est passé, la situation a été renversée. Aman lui-même, il ne sait pas. Alléluia. Il y a une certaine sorte de démon qui ne sort que par le jeûne et la prière. Est-ce que tu es sérieux vraiment par rapport à ton miracle? Est-ce que tu es sérieuse vraiment par rapport à ta délivrance? Est-ce que tu es sérieux vraiment par rapport à ta délivrance? Est-ce que tu veux vraiment que les choses changent? Est-ce que tu veux vraiment avancer? Tu n'as pas besoin de faire 38 ans au bord de la piscine de Bethesda. 38 ans? Même si tu as fait 38 ans là, il ne faut pas faire 40. Et même si tu as fait 40, ne fais pas les 50. Les gens du monde disent mieux vaut tard que jamais. Il faut connaître ta délivrance un jour. Amen. Mais pourquoi cette corrélation-là? Il y a un autre encore. Vous connaissez Jonas? On dit Jonas, ça fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre de la, du gros poisson. 3 jours, 3 nuits. Sans manger ni boire. Parce qu'il n'y a pas de l'eau et vient dans le ventre du poisson. Ni steak, ni 3 jours là-bas. Dans le ventre. Parce qu'il fallait que la mentalité de Jonas la change. Lui, il était un prophète qui voulait faire les choses comme il voulait. Or, Dieu lui a donné une instruction. Va dire au peuple de Ninive de se repentir. Et il a pris la direction opposée. Il est même allé monter dans un bateau. Le bateau ne fait que tanguer à gauche, à droite. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils ont des problèmes. Et c'est eux seuls qui sont attaqués. Parce qu'ils sont dans une direction qui est opposée à la volonté de Dieu. Un moment, lui-même, il a dit au capitaine du bateau, il dit, en réalité, je voulais vous cacher, mais ce n'est pas possible. Il dit, c'est moi le problème. Depuis qu'il est monté dans le bateau, tempête sur tempête, tempête sur tempête, tempête sur tempête. La tempête, ça ne veut pas. Ça ne veut pas s'arrêter. Le capitaine a dit, bon, allez, jetez-le hors du bateau. Les gens l'ont pris, l'ont jeté. Lui-même, il a accepté qu'on le jette. Mais il était prêt. Il était prêt à être jeté hors du bateau, mais il ne voulait pas aller faire sa mission. C'est terrible. Il y a des gens qui sont prêts à mourir plutôt que d'obéir à Dieu. Ça veut dire que toi-même, tu vois que ta désobéissance là est en train de te finir. Tu vois que c'est en train de détruire tes finances. Tu vois que c'est en train de détruire ta vie. Il y a des gens, je ne sais pas, ils attendent d'être mendiants d'abord avant de donner la dîme. Toi-même, tu vois que tu es en train de t'appauvrir avec cette affaire. Mais tu continues. Mais c'est terrible. La Bible dit qu'à un moment, lui-même, il a dit, jetez-moi parce que c'est moi qui apporte les problèmes dans le bateau. Les gens ont pris, ils l'ont jeté. Mais Dieu est trop fort. Ils l'ont jeté là. Au moment où ils arrivent à rentrer dans l'eau, il y a un poisson qui a surgi, on ne sait pas où, pour pouvoir l'avaler. Et la Bible dit que de la même manière, et c'est là que je comprends cette affaire de 3 jours et 3 nuits. Pourquoi? Parce que la Bible dit que de la même manière que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, Jésus lui-même a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Alléluia! 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Et de la même manière que le poisson a recraché Jonas, la terre aussi a recraché Jésus parce qu'elle ne pouvait pas tenir. Or, Jonas était un messager de la délivrance. Il était venu apporter la délivrance à Ninive. Et même les gens de Ninive, là aussi, ils ont jeûné pendant 3 jours et 3 nuits. Y compris les bébés. On dit même... Et les animaux, les chiens, les chats, tout ça, ils ont jeûné. Ton chien même peut jeûner aussi. Alléluia. Quand tu veux que la délivrance rentre dans la maison là, bon, tu rentres là, tu dis, bon, tout le monde sous-jeûne. On dit, mais le chat, il jeûne aussi. Parce que des fois, mais vous pensez que les démons là, moi j'ai déjà vu des animaux domestiques, tu regardes l'animal là, tu dis, non, lui là, il a besoin de délivrance. Regardez, quand Jésus a chassé les démons du fou de Gadara, ils sont allés dans les cochons. Donc les démons peuvent aller dans les animaux. Il y a des gens, c'est l'animal domestique qu'ils ont à la maison, que le diable utilise. L'animal est possédé. Il fait des choses mais terribles. Mais les démons, ils ont besoin d'avoir un corps. Ils ont besoin d'avoir un corps. Donc, s'ils ne peuvent pas avoir le corps d'un homme, mais ils peuvent se contenter du corps d'un chien ou d'un animal pour te fatiguer. Ou d'un enfant, parce qu'il y a des enfants aussi qui sont possédés. Et c'est terrible même, mais les enfants... Ils sont réceptifs à ces choses-là. Il faut faire très attention. Et donc, la délivrance, c'est important. De la maison, des enfants. Vous savez, là, j'ai eu des nouvelles qui sont quand même assez tristes. Vous savez, dans le corps de Christ, il y a des choses terribles qui se passent. La dernière fois, on m'informait que la femme d'un pasteur s'était suicidée. Elle a sauté du 3e étage d'un immeuble. S'est écrasée, elle est morte. On a une de nos amies là, qu'on avait invitée au début du ministère qui est au Canada. Son fils aîné s'est suicidé. Il y a un grand pasteur dans le monde, il s'appelle Rick Warren, très grand pasteur. Il a écrit des livres qui ont été vendus à des millions d'exemplaires. C'est eux-mêmes, ils disent que le jeûne, la prière, c'est plus nécessaire, les démons n'existent pas. Quand son fils est suicidé, là, il a convoqué un jeûne de 3 jours dans son église. Un démon, si tu ne le chasses pas, il va te chasser. Eux, ils ne sont pas là pour venir s'amuser, ils sont là pour venir détruire ta famille. Donc, tu penses que tu vas échapper, mais tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper, tu dois combattre. Et c'est pour ça que les écailles de nos yeux doivent tomber. Pour que nous puissions comprendre les enjeux spirituels, les choses spirituelles autour de nous. Tu as besoin, tu dois jeûner pour ta famille. Tu dois jeûner pour toi-même. Mais tu dois jeûner pour ta famille, jeûner pour tes enfants. Amen. Le jeûne et la prière pour pouvoir confronter certains esprits et pour pouvoir changer véritablement le cours de l'histoire, le cours de la chose. Le diable est venu pour vous faire périr. Esther était là et elle allait périr. Qu'elle fasse quelque chose ou qu'elle ne fasse pas quelque chose, elle allait périr. Mais elle a décidé de faire quelque chose. Elle dit, je ne périrai pas. Alléluia. De la même manière, le diable est venu pour faire périr l'humanité. Mais Jésus n'a pas permis cela. Et de la même manière qu'il a, il a fait quoi? 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Quand on l'a crucifié, il est resté pendant 3 jours et 3 nuits dans la terre. On va lire deux derniers passages et puis on va prier ce soir. Dans Luc chapitre 6, verset 40. En parlant du maître, la Bible dit quelque chose. Luc 6, 40. La Bible dit, le disciple, c'est le Seigneur lui-même qui dit ça. Il dit, le disciple n'est pas plus que le maître. Amen. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc ça veut dire quoi? Que ce que son maître a fait, le disciple accompli, il va le faire aussi. Amen. Donc nous, on est des disciples de Jésus. Quand il nous a envoyé pour aller faire l'œuvre, il a dit, allez partout le monde, il dit, faites des nations des disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Jésus nous a prescrit? Il nous a prescrit le jeûne et la prière. Il nous a prescrit, il a dit, en fait, il y a une certaine sorte d'esprit, de démon là. Ils ne partent que par le jeûne et la prière. Ils ne partent que par ça. Amen. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez dans la Bible, cette affaire de 3 jours et 3 nuits, c'est un jeûne de délivrance. Amen. C'est un jeûne pour la délivrance. Quand on dit jeûne d'Esther, c'est un jeûne de délivrance. Vous avez des personnes qui eux-mêmes, ils savent des fois qu'ils ont besoin de délivrance. Mais moi, j'aime pas trop quand quelqu'un vient et te dit, « Pasteur, j'ai besoin de délivrance. » Laisse, le pasteur va te dire, si tu as besoin de délivrance, il va discuter avec toi. Amen. C'est comme si tu vas chez un médecin et puis tu viens, tu dis, monsieur, j'ai le cancer. Or, ça n'a pas été encore diagnostiqué. Tu ne peux pas toi-même établir ton propre diagnostic. Tu peux dire, voilà, j'ai des problèmes. J'ai ce genre, tel genre de problème. Lui, par rapport au problème que tu as, il peut dire, ah, je pense que tu as besoin de délivrance dans tel domaine ou dans tel domaine. Bon, quoi qu'il en soit, la personne vient parce qu'elle-même peut-être elle sait aussi les choses dans lesquelles elle est rentrée, les choses qu'elle a faites, et elle va te dire, oui, j'ai besoin de délivrance. Tu vas lui dire, bon, ok, il faut jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. Ah, vraiment, ça, c'est compliqué. Ah bon. C'est que les démons, là, ils ne t'ont pas encore bien frappé. Tu n'es pas encore vraiment fatigué. Parce que quand tu es vraiment fatigué, si on te dit, et moi je l'ai expérimenté over and over again, comment on dit en anglais, plusieurs fois. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. C'est-à-dire que quand la personne est prompte à faire son jeûne, quand tu ordonnes à la fin du jeûne, là, la délivrance va durer peut-être 3 minutes, 4 minutes maximum. Quand la personne refuse de faire le jeûne, vous allez vous débattre avec l'esprit. Ça peut durer des heures. Des fois même, faites même que la personne accepte de rentrer dans le jeûne, la prière, déjà l'esprit commence à partir. Parce qu'il sent que la personne est déterminée. Vous voyez, quand vous êtes déterminé, le diable sait. Il sait tout de suite. Mais quand vous n'êtes pas déterminé, il a encore de l'espoir. Il dit, oh non, peut-être que c'est une phase. C'est un passage. C'est pour ça, un démon, quand il s'en va, il revient toujours. Il ne part jamais totalement. Jamais. Celui qui va vous dire qu'il va chasser un esprit, l'esprit ne va jamais revenir, c'est faux. Parce que Jésus lui-même a dit que quand un esprit est chassé, il va revenir. Il va dans les lieux arides, mais il revient toujours. Pourquoi il revient? Il vient négocier pour voir si il peut. Si t'as manqué. Hello, ça va? Je t'ai manqué un peu. Mais quand un homme et une femme font parler, ils se disputent. Hein? Des fois, ils vont se séparer. Des fois, c'est, je ne veux plus te voir, machin, machin. Mais ça, là, c'est dans la bouche. Je ne veux plus te voir, là. Deux semaines après, ton téléphone sonne, tu vois son numéro, tu prends. Ah, tu m'as trop manqué. Oh, toi aussi, tu m'as manqué. Pourquoi? Parce que vous avez tellement marché ensemble des fois que. Et tout homme, c'est ça. Tout homme, donc, il va toujours venir gratter un peu pour voir s'il y a encore un peu. Donc, les démons sont comme ça. Il a marché avec toi pendant 15 ans, pour certains, 20 ans. Donc, tu penses qu'il va partir comme ça et puis il ne va pas revenir? Il va revenir. Mais quand il va revenir, il revient pourquoi? Pour savoir si vraiment tu étais dans ton état normal quand tu le chassais. Si tu es vraiment décidé. Donc quand il revient, il doit te retrouver aussi décidé que tu l'étais au moment où tu l'as chassé. Et même encore plus. Et plus farouchement, refuser que la situation passée puisse revenir. C'est pour ça que la délivrance doit se préparer. Ça doit se travailler. Et tu dois amener les gens à avoir une vie de jeûne et prière d'abord, avant de les amener à la délivrance. Sinon, tu vas leur créer des problèmes. On va se lever, on va prier le Seigneur. J'ai pris un peu de temps. Amen. Vous expliquez l'importance. C'est important d'être sérieux avec sa décision. Amen. Et de comprendre l'enjeu du combat. Amen. Avec la grâce de Dieu, j'ai retrouvé un message que j'avais donné dans le temps à Pantin sur le thème « Comment vaincre par la prière, le jeûne et le parler en langue ?» Les gens qui ne comprennent pas le parler en langue, l'importance du parler en langue, le jeûne et la prière, ces trois éléments-là sont des éléments qui sont importants. Amen. Donc, dans ce coffret-là, vous avez trois messages. Vous avez comment vaincre par la prière, comment vaincre par le jeûne, comment vaincre par le parler en langue. Amen. C'est important. Le chrétien d'aujourd'hui, s'il y a un moment où le jeûne, la prière, le parler en langue, s'il y a un moment où c'est le plus important, c'est maintenant. S'il y a un moment aussi où le parler en langue, la prière et le jeûne, c'est le plus combattu, c'est maintenant. Pourquoi c'est le plus combattu maintenant? Parce que c'est important maintenant pour notre survie. Amen. Ce que vous faites là, c'est important. Il faut continuer, il faut persévérer. Tous les jeudis, venez jeûner, prier sérieusement. Amen. Sérieusement. Parce que quand tu n'es pas sérieux avec le diable, il pense que tu t'amuses. Or, nous ne sommes pas là pour nous amuser. On est là pour la délivrance de notre vie, la délivrance de nos enfants. Amen. Alléluia. La délivrance de notre famille. Nos enfants ne vont pas se suicider au nom de Jésus. Amen. Vous imaginez, le suicide, c'est quoi? C'est un état de possession avancé. À tel point qu'un autre esprit est capable de t'enlever la vie. Même les psychiatres et les psychologues comprennent que quand quelqu'un arrive à un stade où il commet un suicide, c'est qu'il a perdu le contrôle de sa vie. Ils disent qu'il a perdu le contrôle.
Il a voulu se suicider.
Parce que tant que tu gardes le contrôle, tu vas vouloir vivre. Tu veux te suicider, pourquoi? Mais c'est bizarre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à se suicider au lieu de jeûner 3 jours et 3 nuits.
Non, faut pas arriver à te suicider, pardon. Faut jeûner.
Si tu vois que ça ne va pas, c'est vraiment, tu es dans une situation vraiment désespérée. Une situation où tu es acculé de partout. Où tu regardes devant, tu ne vois pas de secours. Là, je suis en train de parler, quelqu'un m'entend. Peut-être c'est dans 5 ans, dans 10 ans, il va entendre ce message-là. Tu es au bord du gouffre, comme on dit. Vraiment, tu ne vois aucun échappatoire. L'Éternel des armées peut te sauver de cette situation. Alléluia. Il peut te sauver. Mais il faut que toi aussi, tu sois prêt à payer le prix. Rentre dans un moment de jeûne et prière sérieux. Et tu vas voir la délivrance de Dieu va surgir dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas élever la voix. On n'a pas beaucoup de temps. Tu vas élever la voix et tu vas prier ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je veux être comme toi. Je veux être comme Jésus. La Bible dit que Dieu nous appelle à atteindre la stature parfaite de Christ. Donc, on doit devenir des petits Christ. Alléluia. Élève la voix. Oui, Seigneur, je veux devenir comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Alléluia. Je veux être comme toi. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli devient comme le maître. Je veux devenir comme toi, Seigneur. Je veux être un instrument de délivrance. Je veux être un instrument de libération. Je veux être un instrument de secours. Je veux apporter le secours aux âmes qui sont en train de mourir. Je veux apporter le secours aux âmes qui sont en train de périr. Je veux apporter la délivrance aux âmes qui sont aux mains de l'ennemi, qui essaient de les détruire. À commencer par moi-même, Seigneur. Je veux être libéré de l'emprise et de l'influence des démons. Je veux être libéré de l'influence et de l'emprise des esprits impurs. À commencer par la cécité spirituelle. À commencer par l'aveuglement spirituel. Que les écailles de mes yeux tombent. Que les écailles de mes yeux tombent. Et que je revête une dimension surnaturelle, une dimension spirituelle, au nom de Jésus. Élève la voix et prie ton Dieu. Tu ne vas pas tomber dans le piège de ce siècle. Tu ne seras pas aveugle spirituellement. Dieu ouvre tes yeux. Et te donne véritablement de devenir puissant et puissante. Tu seras un instrument de délivrance. Tu seras un instrument de salut. Tu seras un instrument de guérison. Tu seras un instrument pour la destruction des œuvres du diable. Dans ta maison, dans ta famille, dans ta génération et dans ta nation. Prie ton Dieu, alors que tu es en train de prier, je vois ces choses. Je vois des personnes qui seront des instruments de délivrance. Des personnes qui seront des instruments de libération. Jésus était un instrument de libération. Un instrument de délivrance. Lorsqu'il arrive dans la vie de quelqu'un, la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Les œuvres du diable vont s'arrêter dans ta vie et autour de ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les œuvres du diable vont s'arrêter dans ta vie et autour de ta vie au nom de Jésus. Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu veux prier par l'intelligence, prie par l'intelligence. Mais tu vas te lever sur les œuvres des ténèbres. Tu vas dominer sur les œuvres des ténèbres. Tu vas déjouer les plans de l'ennemi. Le Seigneur me dit qu'il y a des Esther dans cette salle. Il y a des Esther dans cette salle. Il y a des Jonas et il y a des Esther. Des Esther qui vont renverser le cours de leur vie. Qui vont renverser le cours de leur famille, de la vie de leur famille. Qui vont renverser le cours de la fatalité. Il n'y a pas de fatalité devant Esther. Il n'y a pas de fatalité devant Esther. Il n'y a pas de problème insurmontable devant Esther. Il n'y a pas d'ennemi qui peut avoir la victoire devant Esther. Tu as la victoire et tu auras la victoire. 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 Il y a quelqu'un dans cette salle, tu as un proche à toi qui est à l'article de la mort. C'est-à-dire qu'il y a des pronostics qui ont été donnés sur sa vie. Le Seigneur me dit que nous avons l'autorité pour réclamer la vie de quelqu'un ici aujourd'hui. Alléluia. Nous avons le pouvoir pour réclamer la vie de quelqu'un. Il ne mourra pas, il vivra. Alléluia. Élève la voix et prie ton Dieu. Réclame la vie de quelqu'un. Réclame la vie. Sora proso riki sheke brata kantaya. Rike moso rakapanda sheke neria soya. Ora bakanta ribasaya. Changement de situation, renversement de situation. Au nom de Jésus, il y aura la vie là où on a annoncé la mort. Il y aura la multiplication là où on a annoncé la division. Il y aura la promotion là où on a annoncé le licenciement. Et dans cette période de crise spirituelle, de crise économique, tu vas prospérer au nom de Jésus. Les plans du diable n'ont aucun effet sur ta vie. Les projets du diable n'ont aucun effet sur ta vie. Et sur la vie de tes enfants. Et sur la vie des enfants de tes enfants. Dans ta famille, dans ta maison. Les projets de destruction sont anéantis au nom de Jésus. Les personnes qui se sont levées contre toi auront honte au nom de Jésus. Elles seront dans la confusion. Elles seront dans la confusion. Les projets de destruction qu'elles ont conçus contre toi vont retomber sur leur tête. Écoutez-moi. Toute personne mal intentionnée qui agit dans ta vie comme un Haman, ça veut dire qu'il il te prend en haine et il a fomenté des plans machiavéliques et destructeurs contre ta vie. Toute personne qui t'a en haine et qui veut et qui est jalouse de toi et qui veut ta destruction va voir ses plans complètement frustrés au nom de Jésus. Cette personne-là va voir que les plans et les pièges qu'elle a mis devant toi, ce sont dans ces pièges-là qu'elle-même elle va tomber au nom de Jésus. Et cette personne-là confessera de sa bouche qu'elle a rencontré quelqu'un qui a un Dieu et qui sert le Dieu vivant. Élie a dit, le Dieu qui répondra par le feu est le vrai Dieu. Ton Dieu, il est le vrai Dieu. Et il répond par le feu partout où ton nom est cité, invoqué, partout où les gens te veulent du mal, c'est le feu qui répond à ta place au nom de Jésus. Tous les plans et tous les projets de destruction de l'ennemi contre ta vie, contre la vie de tes enfants, contre ta famille, contre ton ministère, contre ton service pour Dieu, contre tout ce que tu dois faire ou accomplir, tout plan de destruction est renversé au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit amen. Amen, amen, amen. Alléluia.
Nous espérons que ce message vous a édifié. Pour en écouter d'autres ou vous procurer un support CD ou un livre, allez sur votre librairie ou sur www.benimoi.com.